Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Merci pour votre présence, ceux qui viennent de loin. Il y a la course des Bessèges qui retiennent, mais vous avez fait un effort sur vous-même pour être là. Soyez-en bénis. J'espère que vous n'êtes pas venus pour rien et que vous repartirez avec quelque chose qui complétera votre foi. Je vous invite à la prière. Que ton nom soit béni, Seigneur, d'avoir préparé notre cœur pour recevoir ton message. Nous étions des gens étrangers à ta vie. Nous ne savions pas ce que c'est que le salut, ce que c'est que la grâce, et encore moins la personne de Jésus, ton Fils, que tu as offert au monde pour nous sauver. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes nés de cette parole-là, cette semence de vie que tu as plantée en nous. Elle est appelée à prospérer pour que nous puissions devenir semblables à celui que tu as offert pour nous délivrer. Que ton message ce matin trouve une place stable au fond de notre cœur. Que nous soyons une bonne terre pour recevoir cette semence. Et que toute la gloire revienne à toi dans le nom de Jésus. Amen. Le salut que nous avons reçu de la part de Dieu est par grâce. Comme la Bible le dit, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et dans le chant que nous avons chanté, il y a un petit mot qui m'a gêné, c'est le mot « immolé ». On n'est pas immolé, on s'offre en sacrifice à Dieu qui s'est offert en sacrifice pour nous. Et en retour, par son amour, nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, comme le dit le livre des Romains. Ce matin, je me propose de vous parler sous forme de parabole de l'arbre comme promis, symbole du chrétien. Et nous allons nous appuyer sur trois textes. Il y en a plusieurs, mais on va partir de là. Et que le Seigneur ouvre nos yeux et nos cœurs surtout pour recevoir ce message de la part de Dieu. Alors nous pouvons lire le premier texte, si c'est prêt. Mes regards s'arrêtent, la version varie. Dans certaines versions, ça commence à partir du verset 13. Mais par précaution, on va commencer par là. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. Ça m'intéresse pas. Voilà ce texte qui est intéressant. Les justes fleurissent comme le palmier et ils croissent comme le cèdre du Liban. Un autre texte. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont comme encore féconds dans la vieillesse, et ils sont pleins de sève et verdoyants. Nous le voyons au milieu de nous. Hein? Il y a des aînés là qui sont pleins de tonus, et la vie du Seigneur est avec eux. Pourquoi ? Pour annoncer que l'Éternel est droit, et il est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui. L'autre texte, dans Psaume 1, connaissez ce texte ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Oui, Gérard, on continue ? Oui, on s'arrête là ? Continue, si tu peux le trouver, ce serait bien. Voilà. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit, encore ? Il est comme un arbre planté où, auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. On peut laisser là ou si tu veux qu'on lise le prochain. Voilà, c'est dans Jérémie. Le prochain, c'est dans Jérémie, chapitre 17. Alors l'homme qui est met sa confiance en Dieu, il est comme un genévrier dans le steppe. Celui qui ne met pas sa confiance en Dieu, il est comme un genévrier dans le steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. C'est pour faire le contraste. On peut s'arrêter là. L'histoire de Dieu et de l'homme s'ouvre sur l'histoire de l'arbre. Surtout les deux arbres. l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre donne de l'ombre. Il est au Proche-Orient, comme en Afrique, sous les baobabs, le lieu privilégié des rencontres, où on tranche des affaires, où on délibère pour l'orientation des villes et des affaires de la société. Symboliquement, il apparaît comme un trait d'union. Il apparaît comme un trait d'union verticale entre le ciel et la terre, et l'arbre est un symbole privilégié de la relation de l'homme avec Dieu dans la Bible. Souvent, on dit qu'il y a des arbres qui battent les mains. On se demande comment les arbres peuvent battre les mains si vous lisez le texte biblique. C'est en image. Et lorsque Adam et Ève, ayant reçu le mandat de Dieu, avec toutes les instructions, une restriction lui a été faite de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la sagesse, mais de la sagesse diabolique par rapport à l'arbre de vie qui est la sagesse, mais de la sagesse divine. C'est-à-dire que désormais, une fois qu'ils ont mangé cet arbre, le fruit de l'arbre, Dieu les a expulsés du jardin. Et sur le chemin, il a mis deux chérubins avec des épées pour les en empêcher d'aller cueillir le fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Mais plus tard, ce chemin va être ouvert par celui qui est la sagesse personnifiée et qu'on retrouve parfois dans Proverbes chapitre 8 et que certaines dénominations disent que non, ça a été une créature. Mais il s'agit de Jésus, la sagesse personnifiée. C'est Jésus qui va ouvrir le chemin de cet arbre qui nous mène vers la présence de Dieu. Car il va dire dans Jean chapitre 14 que moi je suis Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous allez par moi entrer dans la présence de Dieu, prendre de sa présence ce dont vous avez besoin et vous pouvez faire le va et vient dans la présence de Dieu qui vous a été privé à cause du péché. N'est-ce pas merveilleux? Donc l'image de l'arbre n'est pas n'importe quoi. Souvent dans le monde antique, l'arbre devient un truc d'adoration. Et même nous aussi, nous nous laissons piéger avec, pendant Noël, le sapin, le beau sapin, on chante le sapin. Est-ce que vous savez pour quelle raison vous chantez cet arbre-là? Voilà, ce sont des dangers subtils qui s'introduisent parfois dans la communion et dans notre religiosité sans qu'on le sache. On n'a pas besoin d'adorer un arbre. On n'a pas besoin de chanter la grandeur d'un arbre. Si cet arbre-là est Jésus, oui. C'est affirmer que la vie du véritable juste est comparée à deux arbres. Nous l'avons vu, un palmier et un cèdre. Par nature, le palmier est un grand arbre, au port droit, dont les fruits forment une sorte de couronne au sommet. Et il est réputé pour son huile rouge. Et on l'utilise parfois dans les cosmétiques, mais beaucoup plus dans la nourriture. Le cèdre, quant à lui, il est le roi de tous les arbres, dit-on. Ce n'est pas le sapin. Le plus magnifique, le plus majesté des arbres. Et c'est l'image du juste dans son état de pureté et dans son état de maturité. Ces deux images de la justice ne s'appliquent cependant qu'à ceux qui sont plantés, dit-on, dans le parvis de Dieu. Être planté. Voilà le mot le plus important. Il nous parle d'engagement constant, être planté. Il nous parle de la stabilité, être planté. Il nous parle de la constance, être planté. Il nous parle de la culture de l'identité à laquelle on appartient. Mais pas n'importe où. On est planté dans les parvis de l'Éternel. Et vous voyez mon regard, Un arbre ne tient que sa solidité qu'à la façon dont il est planté dans le sol. Souvenez-vous, il y avait une période qu'on a connue, un ouragan en France. Des arbres qui n'avaient pas été bien plantés avaient été arrachés, déracinés, jetés au loin. Et ceux qui avaient été bien plantés résistaient. Et je crois que Sénèque, un des philosophes qui avait été cité par Jacques Chirac dans un des livres qu'il a écrit, que ce sont les arbres qui ont été confrontés par le vent qui ont des racines plus profondes. Et vous voyez que ces deux arbres dont je parle, ce sont des arbres qui ont été plantés souvent dans un environnement hostile. Et c'est pourquoi ils manifestent une robustesse, une solidité. Et Jésus est venu dans ce monde hostile. Cependant, il est appelé à porter la justice, l'amour de Dieu. C'est dire que le chrétien qui est issu de Christ, il vit toujours dans un environnement hostile. Vous n'allez pas me dire que le monde nous a accueillis les bras ouverts en déroulant devant chacun d'entre nous le tapis rouge. J'ai l'impression que quand on devient enfant de Dieu chrétien, la situation devient encore beaucoup plus difficile. Le combat, il est là, à tout bout de champ. L'embuscade subtile est toujours là pour nous emporter loin de la face de Dieu. Une force invisible noire semble se mettre en mouvement pour nous soustraire de la Seigneurie de Christ, pour retourner le trône de la grâce sur lequel Jésus nous a plantés. Et ça, c'est un combat permanent. Voilà pourquoi le chrétien retrouve sa sécurité quand il est planté dans le parvis de l'Éternel. Alors les personnes âgées dans la maison de santé aiment beaucoup ce texte. Parce que la Bible dit qu'ils sont comme des arbres verdoyants qui portent encore du jus dans leur vieillesse. C'est le général MacArthur américain qui disait que la vieillesse est un état d'esprit. On peut être aussi vieux que ses doutes, vieux que ses peurs. Mais on peut être âgé, mais avoir la foi d'un jeune. Parce que c'est là notre nature, en fin de compte. L'enveloppe dans laquelle nous sommes, c'est qu'une enveloppe corporelle, il partira un jour. Mais notre vraie nature n'est pas l'enveloppe, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ainsi, nous sommes appelés à nous enraciner en Jésus. C'est en nous enracinant que nous pouvons porter des fruits. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à prendre comme fondation l'amour et la vérité qui représentent la nature de Dieu et qui doit faire notre identité. Et là, il s'agit de quoi, l'arbre? L'arbre ne tient pas compte de l'apparence. L'arbre, c'est notre vraie nature intérieure. Ce que cela signifie, l'arbre. L'arbre, ce n'est pas l'extérieur. On peut être petit, mais intérieurement, une grande âme. Et donc, l'arbre, c'est l'homme intérieur né de nouveau qui grandit en nous. Parce que cet arbre-là, lui, ne meurt pas. Par contre, notre être extérieur, il est appelé à mourir. Nous portons un trésor dans ce vase de terre qui est notre nature humaine, la vieille nature adamique. Et plus cet être intérieur se renouvelle, grandit, il mûrit, il fait craqueler l'être extérieur. La lumière de Dieu jaillit en nous. Je me suis amusé à marcher le long du parapet, le long de la rivière. Ils avaient fait des travaux, ils ont mis des bitumes tout autour des arbres qui sont là. Mais pas plus tard que quelques instants, je me promenais, je voyais les bitumes complètement craquelés. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite plante qui est en train de pousser. Juste cette puissance de cette plante est capable de craqueler toute une bitume. Et c'est la vie de l'esprit qui est en nous. Devant quoi rien ne résiste. Rien ne peut résister devant la vie. Voilà, c'est à cela que Dieu nous appelle, cette réalité. Mais quelque part, l'arbre symbolise l'orgueil. C'est pour ça que parfois, quand nous lisons dans les Écritures, certains rois, monarques, sont représentés par des arbres. qui se dresse orgueilleusement devant la présence de Dieu. Mais ça, je le cite en contraste à ce qu'on aurait pu être, où il y a des gens qui ont commencé en état des arbres saints devant la présence de Dieu et qui, au coup de leur marche, se sont dégénérés. Il y a des rois comme ça qui ont bien commencé et qui ont très mal terminé. D'abord Saül. Dieu l'avait béni parce qu'il était humble aux yeux de Dieu à un moment donné. Mais la royauté lui a donné des vertiges, il s'est dégénéré pour devenir un ennemi de Dieu à un moment donné. Et ça, c'est un danger que court le chrétien. Ah oui. Nous pouvons être notre propre ennemi sans le savoir. Est-ce que vous le savez? Souvent, on voit la bataille à l'extérieur, mais on ne voit pas la bataille que nous représentons nous-mêmes contre nous. On voit le muret de Jéricho à l'extérieur, mais si les murets de Jéricho sont à l'extérieur, c'est qu'il y en a dans notre cœur. Et c'est là où le travail commence. C'est là où le travail commence. Comment prospérer dans la maison de Dieu en étant chrétien? La Bible a dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair qui est capable d'observer mes commandements. Et plus loin, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère ton âme. Et dans l'une version, Martin, il dit ceci, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi en bonne santé physiquement que tu l'es sur le plan spirituel. Voilà le lien qu'on peut faire entre l'arbre, l'homme intérieur, et les bénéfices spirituels que nous pouvons avoir dans la parole du Seigneur. Voilà la volonté de Dieu. Que nous grandissions sur le plan intérieur, de manière à ce que nous puissions jouir de la prospérité spirituelle que Dieu nous demande. Et le mot de base qui est employé dans ce texte, c'est le mot « shalom », qui ne signifie pas que la paix. Ce mot va beaucoup plus loin que la paix. Elle explique la bonne santé. Et même si sur le plan physique, notre corps se détruit, il y a une santé que Dieu veut que ce soit le plan spirituel, nous restons droits comme un i. Elle explique la prospérité sur le plan relationnel. Parfois, le chrétien a des rapports relationnels très malades. Veillons à cela, très important. L'être humain n'est pas une île. Il vit en interrelation et c'est comme ça que Dieu travaille. Le temps pour que Dieu commande aux anges de venir nous aider viendra. Mais pour l'instant, vous êtes les anges les uns des autres. Si Dieu veut me bénir, il passera par vous. Si Dieu veut bénir quelqu'un au milieu de nous, il passera par l'un. Mais pour vous isoler, de ne pas avoir la bénédiction de Dieu, l'ennemi s'arrangera à couper le lien. Boum, 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 boum. À mettre de torches allumées, des tensions parfois inutiles. Et sur quoi nous devons veiller? Et ça, ça gronde ici. Et c'est cet être intérieur qui devait être planté dans le Seigneur, dans sa paix, dans sa joie, dans sa justice, qui nous permet de marcher. Alors, comment prospère l'être? Il va prospérer, l'arbre va prospérer, en gros, de deux manières, sinon trois. Premièrement, c'est sa racine. La puissance de vie qui tend au chrétien se manifeste par la profondeur de sa racine, comme un palmier. Le palmier, souvent, l'environnement est hostile. Hein. C'est le désert, c'est la chaleur, c'est... voilà. Mais vous voyez bien qu'il tient le coup où, à cause de sa racine, qui pénètre en profondeur, il va chercher la nourriture plus loin. C'est notre vie intime avec le Seigneur. Ce que nous manifestons, ce ne sont que l'aspect extérieur. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit notre intimité avec lui. Quelle est la profondeur de notre être intérieur dans la justice de Dieu ? C'est ça la question. Et c'est ça qui fait tout le reste. Il sera comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui porte ses fruits à sa saison. Son témoignage ne flétrit pas. Pourquoi ? Simplement, c'est parce qu'il est placé au bord d'un courant d'eau. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être planté. Et le reste se fait tout seul. Le reste se fait tout seul. S'il y a un travail que nous devons faire, c'est de veiller où nous nous sommes plantés. Je ne m'assieds pas sur les bancs de mon cœur. Je ne suis pas accompagné des gens injustes et méchants. Et notre environnement nous témoigne à suffisance que nous sommes entourés des choses ignobles qui sont de nature à nous formater, à nous enfermer dans une sorte de statu quo ou des idées reçues ou des préjugés établis qui, dans l'Église, se dresse comme une forteresse contre la connaissance du Christ. Et c'est la puissance de la vie de Jésus en train de faire craqueler pour que la lumière de Dieu jaillisse dans notre cœur. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau et qui porte les fruits en sa saison. Et les fruits, nous le connaissons dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la paix, la longanimité, bienveillance, miséricorde. Voilà la vie du Seigneur. La question simplement ce matin, c'est celle-ci. Dans quoi, je le dis nous, parce que moi compris, avons-nous planté notre racine? Dans quelle sorte de sol avons-nous planté notre racine? Est-ce que c'est dans le parvis, la maison de Dieu ou ailleurs? Car c'est dans la maison de Dieu que Dieu va l'établir, l'appeler juste. L'arbre tire sa vie de l'intérieur de lui-même. C'est à l'intérieur de lui se trouve la source de la croissance. Ainsi, il est le symbole avéré du chrétien, authentique, parce qu'on est obligé d'employer le terme vrai, de vrai chrétien. Normalement, le mot vrai n'a pas sa raison d'être. Quand on est chrétien, le mot est plein. Mais quand on est en train de dire vrai chrétien, c'est que il y a des soucis. Ça, c'est la première façon de croître en profondeur. C'est la partie invisible. Mais une façon de croître, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que lorsque vous prenez un arbre et que vous voulez étudier son histoire, vous le découpez et vous allez voir qu'il y a des cercles à l'intérieur. Et chaque cercle raconte l'histoire de l'arbre. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc Jésus en nous grandisse de l'intérieur vers l'extérieur. Je me souviens à l'époque où on était encore jeune, quand on est tombé amoureux d'une petite fille, on va écrire son nom sur le tronc d'arbre et notre nom. Mais vous voyez bien que l'arbre, quand il pousse, les noms ne disparaissent pas. Bien au contraire, les noms commencent à grandir, à prendre de la dimension sur l'arbre. Et si le nom de Jésus est écrit dans notre cœur, plus nous croissons, plus le nom de Jésus s'écrit beaucoup plus gros. Il grandit. Et lorsque, en profondeur, l'arbre prend sa source et qu'il commence à renvoyer la vie de l'intérieur vers l'extérieur, mais il envoie la vie aussi vers le ciel, sur le plan vertical. Il se tient droit devant la présence de Dieu. Il reçoit la vie du Seigneur et il dispatche. Et c'est nous, cette dimension verticale de l'amour du Père qu'il nous faut recevoir avant de le communiquer à nos bien-aimés. Voilà le rôle du chrétien. Et la Bible dit que Dieu a établi l'Église pour manifester sa sagesse infiniment variée aux yeux de ce siècle. Le problème de l'Église n'est pas question de facture ni de vivre le bien-être. L'objectif de l'Église est qu'au travers d'elle, Dieu manifeste sa puissance infiniment variée aux yeux de ce monde. Voilà l'objectif. Et je crois que notre sœur Clémence en a parlé et nous en parlerons. Le témoignage vers l'extérieur, le pécheur d'âme. Car lorsque nous avons cette sagesse, la Bible dit que le sage s'empare d'âme. Quand on a l'amour de Dieu, cet arbre de vie en nous, parce que dans Apocalypse, il ne parlera plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au chapitre 21, au chapitre 22, l'arbre de la connaissance du bien et du mal disparaît de la présence de Dieu. Il n'y a que l'arbre de vie qui reste, c'est-à-dire la sagesse de Dieu qui est en nous. Voilà notre raison d'être, notre raison de vivre. Alors dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit « Malheur à celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains. » Alors, une telle personne, il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Ah, c'est dur. En revanche, celui qui met sa confiance en moi est béni. Celui qui cherche en Dieu la confiance est en sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert, même durant l'année de la sécheresse. Il ne fait aucun souci, il porte du fruit pour la gloire de son Dieu. Voilà la parole de ce matin, où Dieu nous invite à cultiver notre intériorité. Car le cœur de l'homme est la source du mal, et le péché habite dans notre cœur. Et c'est sur ce cœur qu'il faut veiller. D'abord l'offrir à Dieu. S'il y a un docteur qui sait faire une belle transplantation cardiaque, c'est Dieu. Il arrache le vieux cœur, il te vous donne un nouveau cœur. Et ce cœur destiné à obéir à ses commandements. C'est là où nous pouvons dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Montre-moi le chemin par lequel nous sommes appelés à marcher. Et le chemin que prend notre cœur, c'est le chemin que prend nos pieds également. Que notre cœur soit le lieu de l'autel du Seigneur, le sanctuaire de Dieu. C'est la tête de pont de l'attaque de l'ennemi. L'ennemi ne viendra jamais de l'extérieur comme ça. Il commence à prendre, à siéger notre cœur, le centre du commandement. C'est là où nous entendons la voix de Dieu. C'est là où nous manifestons l'amour. La vie chrétienne, c'est la vie du cœur. Et l'ennemi cherche à détruire, comme le cœur de beaucoup de femmes d'ailleurs, et comme le cœur de beaucoup d'hommes d'ailleurs. Parce que la vie chrétienne passe par le cœur. Et s'il y a un organe qu'il faut détruire pour que la vie chrétienne soit détruite, c'est le cœur. Et c'est là où Dieu va commencer le travail de réparation, le travail de restauration, le travail de remise en état, le travail de la régénération. Que le cœur de chacun d'entre nous soit comme un arbre qui prennent racine dans les pensées du Seigneur, que nous trouvons dans sa parole. Et surtout, connaître la pensée de Dieu est une chose. La vivre et la mettre en pratique, ça en est une autre. Travaillons à ce que nos sentiments soient dominés par l'amour qui caractérise la vie du Christ en nous. Travaillons à ce que nos sentiments soient dominés par l'esprit de renoncement, l'esprit d'abnégation. Vivre pour les autres. Et en vivant pour les autres, nous vivons pour nous. Voilà la meilleure façon de vivre que Dieu nous a demandé. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, soyons comme des arbres. Et lorsque nous sommes bien plantés, à notre ombrage viendra se recueillir ceux qui ont besoin du salut. À nos fruits viendront ceux qui auront faim de la justice et de la faim du Seigneur. Et notre présence sera visible. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, je t'apporte mon amour propre et celui de mes frères et mes sœurs ici. Je t'apporte notre attitude de rébellion, parfois qui ne dit pas son nom. Nous ne pouvons pas avancer avec toi sans que ces éléments soient mis à nu et crucifié. Donne-nous de ressortir dans cet endroit comme une machine qui sort de l'usine, remise à neuf pour un redépart. Hier, lors de la pastorale de séminaire Saint-Hieronyme, nous avons vu comment ce vent de Dieu est en train de souffler. qui ne s'arrête pas simplement qu'au milieu des pasteurs, mais que ce vent souffle au milieu de nos communautés, un vent nouveau, où les sauterelles destructrices seront balayées par le souffle de Dieu, mais que le vrai vent de Dieu souffle dans nos voiles, le voile de nos cœurs, pour nous mener dans la bonne direction. Car il y a un autre vent contraire qui souffle, celui de l'ennemi. Et malheureusement, c'est celui-là qui emporte la plupart d'entre nous. Donne-nous d'être dans l'axe du vent du soleil, de justice, à travers le voile de nos cœurs, pour nous mener à bon port. Donne à nos cœurs, Seigneur, d'être remplis de ton amour. Donne à nos cœurs, Seigneur, d'avoir pour les choses de Dieu la priorité. Car les choses de la terre passeront un jour, mais les choses de Dieu demeurent éternellement. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné ce matin. Donne à cette parole de prendre racine en nous. Et qu'au travers de notre personnalité, tu parles à chacun. Car parfois le message n'est pas adapté aux uns et aux autres, mais le Saint-Esprit qui est le traducteur, qui sait interpréter le message de Dieu dans les cœurs, saura parler aux uns et aux autres, et que chacun puisse y trouver bénéfice. Nous rendons gloire à toi, nous te bénissons, dans le nom de Jésus. Amen.